Chapitre 5. Madame Dorbeil, la vieille tante du lieutenant de Marcy, avait voulu qu'Alain vînt déjeuner chez elle avec Armelle. Et naturellement, Florita se trouvait invitée aussi. Tous trois, donc, en sortant de la gare, s'étaient dirigés vers la rue de Varennes, où la vieille dame habitait un hôtel ancien depuis des siècles dans la famille. Après avoir été la saluer respectueusement, dans la grande chambre un peu sombre où elle achevait sa vie terrestre, le lieutenant de Pinvalas et sa cousine, laissant Armelle près d'elle, se retirèrent pour ne pas la fatiguer. Ils allèrent s'asseoir dans un petit salon décoré de tapisseries et de beaux vieux meubles. Florita avait retiré son vêtement, son chapeau, et un rayon de soleil hivernal, traversant le tulle des rideaux, éclairait librement son délicieux visage rosé par le froid, avivait de chauds reflets la teinte d'or de ses cheveux. Alain avait pris place près d'elle, sur le même petit canapé. Il ne la quittait pas du regard, tout en prononçant quelques paroles distraites. Puis un silence se fit. La jeune fille, gênée, le cœur serré par une émotion troublante, tenait ses paupières un peu baissées. Les cils tremblaient sur la joue qui palpitait légèrement. La voix d'Alain changée, frémissante de passion contenue, murmura « Que tes cheveux sont beaux, ma Florie !» Les cils d'or se soulevèrent, laissant voir les prunelles veloutées, qui rencontrèrent les yeux d'Alain, les yeux superbes, ardents, en ce moment plein de flammes. Et dans cet échange de regards éblouis, tous deux se firent l'aveu de leur amour. Alain se pencha, entoura de son bras les épaules de la jeune fille. « Florita, voici bien longtemps que je t'aime, que je songe à toi pour devenir la compagne de ma vie. Dis-moi, petite cousine chérie, veux-tu devenir ma femme ?»« Alain, mon cher Alain. » Ce fut d'abord tout ce qu'elle put dire, mais il lisait dans ses yeux la joie, le tendre ravissement. « Oui, je serai à toi, pour toujours. » Les lèvres d'Alain se posèrent longuement sur la joue satinée, rougissante, qui se trouvait toute proche d'elle. « Ma bien-aimée Florita, oui, montre-moi tes chers beaux yeux, tes merveilleux yeux noirs, ma petite fleur. Leur souvenir a été mon égide depuis que je te connais. En eux se reflète si bien ton âme pure, délicate, vibrante à tous les nobles sentiments. Aussi, chérie, avec l'aide du ciel, me suis-je gardée tout à toi, que déjà depuis plusieurs années j'appelais en secret ma fiancée. Alain, je sais bien que je puis avoir en toi toute confiance. » Elle le regardait avec une fervente tendresse qui donnait à son regard un admirable éclat. Il murmura, en pressant de ses lèvres les cheveux d'or. « Tu m'aimes ?» Elle répondit avec une candide franchise. « Oui, plus que tout le monde, Alain chéri. Tu veux bien que j'écrive à ma grand-mère pour qu'elle demande ta main à Madame Mulbach ?»« Oh oui, alors dès ce soir, je... » Il s'interrompit. La porte s'ouvrait, laissant apparaître Armelle. La jeune femme s'écria, en essayant vainement de prendre un air scandalisé, à la vue de sa cousine entre les bras de l'officier. « Eh bien, Alain !» Alain se mit à rire, sans changer de position, et en retenant Florita, qui, un peu confuse, faisait un mouvement pour s'écarter. « Ma chère Armelle, je te présente des fiancés, sous réserve du consentement de grand-mère, dont je ne doute pas, et de celui de monsieur et madame Mulbach, qui, je l'espère, ne nous fera pas défaut non plus. » Madame de Marcy dit gaiement, « Alors je n'ai plus qu'à vous offrir mes félicitations, beaux amoureux. Florie, je suis bien heureuse que tu deviennes ma sœur pour tout de bon, et je sais d'avance que notre Alain ne sera pas à plaindre près de toi. » Elle embrassa tendrement les deux jeunes gens, tout frémissant de leur bonheur. Alain dit avec émotion, « Grand-mère sera si contente. J'ai bien compris que ce mariage était son rêve, car jamais elle ne manquait de me vanter les qualités physiques, morales et intellectuelles de Florita. Certes, plus d'une fois, elle m'a dit, « Mon seul désir est qu'Alain épouse cette petite Florie, dont je connaissais bien la charmante nature et qui saurait certainement le rendre très heureux. » Le lieutenant dit d'un ton de taquinerie, « Eh, mais qui sait, peut-être s'est-elle trompée une fois de plus, grand-mère, car cela lui est arrivé, fameusement même, à propos de cette Elsa. » « Eh oui, moi aussi, je l'avoue, je m'étais laissé prendre. Il n'y avait que toi et Florita. » La jeune fille dit vivement, « Oh, jamais elle ne m'a plu. Et vous voyez comme nous avions raison, Alain et moi.
L'officier eut un méprisant mouvement d'épaule. C'était une misérable hypocrite, si seulement elle n'avait pas jeté le grappin sur cet imbécile de Maurice. Entends-tu quelquefois parler de lui ?
Rarement, je sais que tous deux mènent une vie très mondaine, qu'on les voit dans tous les endroits où il est chic de se montrer.
Pourvu qu'elle ne rende pas Maurice trop malheureux, au moins, ou qu'elle ne jette pas le déshonneur sur son nom, car on ne sait vraiment jusqu'où peuvent aller ces sortes d'intrigantes. Florita fit observer. Je crois que Madame Ulrich Mulbar et sa fille sont en relation avec elle. Ma tante m'a dit qu'elle était excessivement habile pour se glisser dans les milieux où elle désire être reçue.
Oui, habile, elle l'est certainement, et intelligente. C'est ce qui la rend très dangereuse et m'effraie pour Maurice, nature faible, un peu veule. Mais puisque nous ne pouvons rien pour lui, malheureusement, abandonnons cette peu intéressante personne qui m'a laissé le plus désagréable souvenir et parlons d'autre chose. De ton prochain séjour à Runesto, par exemple, ma Florita.
Le salon de Madame d'Orbeil ce matin-là et dans l'après-midi entendit de charmants projets. Alain viendrait cet été passer, comme de coutume, son congé en Bretagne. Puis, en automne, on pourrait célébrer le mariage. Dans ta vieille chapelle, Alain, on la décorera de fleurs et on invitera tout le pays. Dans le parc, on fera déjeuner les invités, toutes ces braves familles de pêcheurs et de paysans que je connais bien, et qui aiment tant cette charitable petite demoiselle Florita. Oui, nous ferons ce que tu voudras, Florie, et nous ajouterons encore aux largesses habituelles quand le chef de nom et d'armes se marie chez nous. Florita fit observer, en inclinant son front vers l'épaule de son fiancé, « Tu sais que je n'ai pas une bien grosse dot, Alain. Il faudra t'informer près de l'oncle Otto. » Il dit vivement, « Que m'importe, ma petite aimée, c'est toi que j'épouse, non ta dot. Et si tu n'avais pas un sou vaillant, c'est encore toi que je choisirais, ma fleur, entre toutes les héritières du monde. » Elle murmura, ses yeux éclairés d'amoureuse confiance, levés sur le beau visage loyal. « Oh, je le sais bien, va, mon Alain chéri. » À 4 heures, les deux jeunes gens et Armel se dirigèrent vers le logis des Mulbar. Pépita, par l'intermédiaire de sa nièce, avait invité l'officier et Madame de Marcy à venir prendre le thé. Comme ils passaient près de Saint-Germain-des-Prés, une femme s'approcha, offrant de petits bouquets de violettes disposés dans un vieux panier. C'était une pauvre créature vieillie avant l'âge, visiblement malade. Dans les orbites profondément creusées, les yeux avaient une expression résignée, lamentable. Florita, plus d'une fois cet hiver par charité, lui avait acheté des fleurs de rebut qui étaient son unique gagne-pain. Et en l'interrogeant, l'autre jour, elle avait appris la triste histoire, semblable à beaucoup d'autres. Le mari, coureur et ivrogne, abandonnant sa femme, la malheureuse s'exténuant pour élever ses 2 enfants, l'un de ceux-ci mourant à 14 ans, l'autre une fillette faible rachitique s'en allant peu à peu. Et elle, la mère, épuisée, incapable de travailler maintenant, se traînant chaque jour jusqu'aux alentours de l'église pour essayer d'obtenir quelques sous en échange de ses pauvres fleurs. Mademoiselle de Valserre songeait à s'informer au sujet de cette femme, pour s'assurer qu'elle était vraiment digne d'intérêt. Mais en attendant, elle lui avait déjà remis une large aumône. En la voyant cet après-midi, elle dit avec un sourire cordial « Bonjour, Madame Clouet, comment va votre petite fille ?»«
Un peu mieux, mademoiselle, j'ai pu la faire manger un peu à son goût, la pauvre mignonne, grâce à vous. »
Et le regard de la femme, plein de reconnaissance et d'émotion, enveloppait le charmant visage. « Tant mieux, donnez-moi 2 bouquets, s'il vous plaît. »«
Oui, mademoiselle, mais à condition que cela vous ne les payiez pas. C'est bien peu de choses. » Mais enfin, je veux vous prouver comme je peux ma reconnaissance.
J'accepte, ma bonne dame Clouet, car j'aime beaucoup les fleurs et surtout les violettes. Soigneusement, la femme choisit 2 bouquets, puis elle les tendit à la jeune fille. Mais ce fut Alain qui les prit. De l'autre main, il fit glisser dans le vieux panier une pièce d'or et dit avec le sourire qui donnait une si charmante douceur à sa physionomie fière, « Priez pour 2 fiancés ». Puis tous 3 s'éloignèrent, suivis des yeux par la femme qui murmurait « C'est son fiancé, ce bel officier. Il doit être aussi bon qu'elle. » Chemin faisant, Alain offrait l'un des bouquets à sa sœur, l'autre à Florita, et il dit en souriant « Comme fleurs de fiançailles, elles ne sont pas très belles, mais ce sont les fleurs de la charité, Florie, et je compte d'en offrir bientôt d'autres. Celles-ci me seront toujours chères, et je les conserverai en souvenir de ce jour, mon cher Alain. » Puis, sur la demande du jeune homme, elle lui raconta l'histoire de Mélanie Clouet. « Je voudrais pouvoir la tirer tout à fait de cette misère, » ajouta-t-elle, « et lui donner les moyens de sauver sa pauvre petite fille. Mais mon oncle ne me remet qu'une partie de mes revenus, les autres s'ajoutant chaque année au capital. Je fais toutes les économies que je peux, et néanmoins c'est bien insuffisant pour soulager même cette seule détresse, de façon efficace. Eh bien, Florie, je m'en charge. Prends les renseignements nécessaires, fais tes petites combinaisons, puis écris-moi. Voilà, Alain, il me faut telle somme. C'est très simple, comme tu vois. » Très simple lorsqu'on est bon et charitable comme toi, et qu'on aime tant sa petite fleur. Quand, un peu avant le dîner, Florita se retrouva seule avec sa tante, elle lui apprit la demande en mariage qui venait de lui être faite. Madame Mulbard n'en témoigna pas de surprise et se montra fort satisfaite. Son mari, mis au courant pendant le repas, déclara qu'il en était enchanté pour Florita, Monsieur de Pinvalas réalisant évidemment l'idéal des maris. Il ajouta sur un ton de bonhomie, « Je t'ai constitué une gentille dot, fillette, grâce à de bons placements. Certes, ce n'est rien près de la fortune de ton cousin, mais enfin, tu ne te présenteras tout de même pas les mains vides le jour du contrat. » Florita secoua la tête. Avec Alain, cela m'aurait été complètement égal. Je sais si bien comme il est profondément désintéressé. Quelle joie réelle ce serait même, pour lui, de me donner tout. Et son regard ému, tout à coup ardemment songeur, s'abaissa vers l'humble bouquet de violettes demi-fanées qu'elle avait attaché à son corsage. Oui, elle savait qu'aucun nuage ne s'élèverait entre eux, qu'ils étaient d'âme pareille et s'en iraient dans la vie avec une ferme confiance réciproque, avec un amour sans défaillance. Ce soir-là, Otto Mulbach écrivit sur un feuillet de papier ces simples mots. Les fiançailles sont un fait accompli. Après quoi, ayant introduit cette feuille dans une enveloppe et cacheté celle-ci, il inscrivit la suscription « Madame la comtesse de Ronchet ». Et le lendemain matin, il alla lui-même la glisser dans la boîte aux lettres d'un coquet hôtel du parc Monceau. Deux jours plus tard, Pépita recevait une lettre de Madame de Pinvalas, sollicitant la main de Florita pour son petit-fils. Il n'entrait pas dans le plan d'Otto de paraître opposé à ce mariage. Aussi, Madame Mulbach répondit-elle, en son nom et au sien, qu'ils étaient fort heureux de confier leur chère nièce à un homme tel que le lieutenant de Pinvalas. Ils ne mettaient à leur consentement qu'une seule condition, c'était que, vu l'âge de Florita, on attendrait pour la célébration du mariage qu'elle eût au moins 18 ans. Madame de Pinvalas ne pouvait que les approuver sur ce point, et les fiancés, après quelques protestations, se rangèrent à la sagesse des anciens. Un bonheur tel que le leur ne valait-il pas la peine d'être payé par un peu de patience? Et puis Versailles était bien proche, et Alain, dès qu'il aurait quelques heures de liberté, ne serait pas long à faire le trajet dans l'automobile qu'il venait de choisir avec sa fiancée. Tout était donc ainsi convenu, Florita continua de mener son existence habituelle chez les Mulbach. Et tous les jours maintenant, elle écrivait à Alain et recevait une lettre de lui. Puis, les fleurs choisies par Monsieur de Pinvalas, et non la banale gerbe que l'on paie au hasard, un plus ou moins gros prix. En toute chose, même dans les plus petits détails, Alain voulait que Florita sentît la présence de son amour. Ses fleurs faisaient loucher l'envieuse Lottchen. Un jour, elle avait croisé dans l'escalier Monsieur de Pinvalas, et depuis lors, sa jalousie déjà latente à l'égard de Florita s'était exaspérée. Comment elle, Charlotte Mulbach, jeune fille très chic, toujours mise au dernier cri, appartenant à la noble race germanique, la première du monde, ayant une dot de 300 000 francs et de belles espérances, ne pouvait pas décrocher un époux à son goût. Et cette petite Française qui ne savait pas s'habiller, qui avait peut-être 100 pauvres 1 000 francs de fortune, avait réussi à séduire ce grand seigneur, très riche, très beau, tout à fait chic lui aussi. C'était une chose impossible à considérer de sang-froid. Aussi Lottchen, chaque soir, versait-elle quelques larmes de rage. Après quoi cette fille de la sentimentale Germanie s'occupait à broder un petit cadre, des cœurs de soie mauve sur du satin rose. pour y enfermer une mèche de ses cheveux. Le tout serait envoyé au marquis de Pinvalas, avec un tendre billet signé « Charlotte, à vous pour toujours ». Qui sait, peut-être que ses pâles cheveux blonds lui feraient oublier, tout au moins un instant, les cheveux dorés de Florita. Mademoiselle de Valserre ne se doutait guère des idées qui hantaient l'esprit de Lottchen. Sa nature loyale et délicate ignorait la jalousie et ne l'imaginait pas chez les autres. Elle s'occupait de son trousseau, tout doucement, puisqu'elle avait beaucoup de temps devant elle. Alain venait chaque dimanche, et la tante Pépita les laissait causer tranquillement dans le salon, se faire leur tendre confidence et parler de l'avenir, un avenir sérieux, où le devoir aurait la première place, car tous deux ne le comprenaient qu'ainsi. Monsieur Mulbar se montrait toujours extrêmement affable pour sa nièce et son futur neveu, sans réussir toutefois à conquérir la sympathie de celui-ci. La parenté de Florita avec cet Allemand était un nuage dans le ciel d'Alain. Mais il l'oubliait vite près de la délicieuse fiancée, candidement amoureuse et de plus en plus aimée. La vieille Madame d'Orbeil, vers la fin de janvier, avait rejoint un monde meilleur, et Armelle était retournée à Vannes près de son mari. Madame Mulbar, mieux portante maintenant, accompagnait les deux jeunes gens quand le temps permettait une promenade. Elle témoignait à sa nièce une vive affection, qui, celle-là, était sincère. En même temps, la vanité, assez forte chez elle, était flattée par ce mariage, par l'attention admirative que suscitaient sur leur passage les deux fiancés. En dehors de ces circonstances, Florita continuait sa même existence qu'auparavant, se rendant à des cours, travaillant la musique et la peinture, allant fréquemment à l'église, accompagnée dans toutes ses sorties par la femme de chambre, Anna, une Suissesse, du moins elle le prétendait, femme sérieuse, de mise correcte, depuis plusieurs années au service de Madame Mulbar, qui s'en montrait fort satisfaite. Florita n'aimait pas beaucoup son regard, qu'elle trouvait assez peu franc, mais elle n'avait aucunement à s'en plaindre, bien au contraire, car Anna était l'obligeance même. En outre, sa tenue, sa physionomie, faisaient d'elle un excellent chaperon, ce qui plaisait fort à la jeune fille, souvent gênée par d'indiscrètes admirations masculines. Pendant le mois de mars, elle se rendait une fois par semaine, le soir, à Saint-Germain-des-Prés, pour l'office de carême en compagnie de la femme de chambre. Elle rentrait un peu après 9 heures, vite revenue au logis, distant d'environ 10 minutes. Madame Mulbar tenait prête pour sa nièce une tasse de thé bien chaud, car le temps était parfois très mauvais en cette saison. Et même un soir, Florita hésita un moment à sortir en entendant la pluie tomber à verse. Madame Mulbar l'engageait fortement à rester. « Tu seras trempée en arrivant à l'église, mon enfant. Tu peux prendre mal, vraiment, il est plus raisonnable de ne pas sortir. » Florita allait peut-être prendre ce parti quand Anna entra, apportant le manteau et le chapeau de la jeune fille. « Vite, mademoiselle, les caoutchoucs de mademoiselle sont dans l'antichambre, parce que ce soir c'est prudent de les mettre. « Je crois que je ne vais pas sortir, Anna, il pleut vraiment trop. » Une imperceptible lueur de contrariété passa dans le regard de la femme de chambre. Anna dit de sa voix douce et mesurée. « Pas tant que cela, mademoiselle, on croirait à l'entendre, c'est vrai, mais la pluie fait toujours beaucoup de bruit en tombant sur les gouttières. Avec ça, le temps s'est plutôt adouci. Et puis mademoiselle regrettera peut-être de manquer le sermon, les autres lui ayant tellement plu. » « Certainement, je le regretterai. Que pensez-vous, tante Pépita? Peut-être, comme le dit Anna, ne fait-il pas aussi mauvais qu'il en a l'air. » « Agis à ton idée, ma chère petite. Mais si tu sors, équipe-toi en conséquence. Et si tu vois que la pluie tombe trop fort une fois dehors, rentre tout de suite. » Ceci convenu, Florita, 10 minutes plus tard, quittait le logis suivi d'Anna. Il y avait, de fait, une petite accalmie dans l'averse, et les deux femmes purent atteindre Saint-Germain, sans être par trop mouillée. L'office terminé, comme Florita se levait, Anna demanda respectueusement. « Mademoiselle voudrait-elle attendre quelques minutes? Je suis prise d'une douleur à la jambe, et il faut que je laisse celle-ci un moment étendue pour pouvoir me mettre en marche. »« Certainement, prenez votre temps, Anna. » Et Florita se remit à prier. Les quelques minutes s'étendirent jusqu'à 10. Quand les deux femmes sortirent de l'église, celle-ci était vide. Mais sous le porche, une femme attendait. Florita reconnut aussitôt Mélanie Clouet. « Bonjour, ma bonne Madame Clouet, c'est moi que vous attendiez ?»« Oui, mademoiselle, parce que je voulais vous remercier des bons vêtements chauds que vous avez apportés ce matin pour ma petite. »« Oh, c'est bien peu de choses et je compte faire bientôt davantage avec l'aide de mon fiancé. » La femme dit avec émotion « Que Dieu vous bénisse, mademoiselle, oui, tous les deux. Grâce à vous, déjà, ma petite Henriette se porte mieux. J'irai la voir bientôt. » « Bonsoir et rentrez vite, car il fait un temps abominable. » De fait, l'averse recommençait de plus belle. D'un pas hâtif, Florita et la femme de chambre s'engagèrent sur le boulevard, en ce moment désert à cet endroit. À gauche s'élevait la grille de l'enclos attenant à l'église. À droite, contre le trottoir, stationnait une automobile que Florita avait déjà remarquée en venant. Mais maintenant, le moteur fonctionnait, prêt à partir. Deux hommes se tenaient debout près de la portière, paraissant attendre quelqu'un, et machinalement, Florita vit que les phares étaient voilés, comme si l'on avait voulu éviter que leur lueur se répandît sur le trottoir. Elle n'eut d'ailleurs pas le temps de faire d'autres réflexions, car à l'instant où elle passait à hauteur de la voiture, les deux hommes bondirent sur elle et sa compagne. Anna reçut un coup de poing sur le crâne et tomba sans pousser un cri. Quant à Florita, une étoffe sombre était jetée autour de sa tête, l'étouffant à demi. Puis, enlevée par des bras robustes, elle était jetée dans l'automobile où prenait place l'un des deux agresseurs, tandis que l'autre sautait sur le siège et faisait rapidement démarrer la voiture, qui s'éloignait à grande vitesse. Un cri pourtant avait été poussé, puis des appels retentissaient maintenant. « Au secours, au secours !» Une femme accourait, c'était Mélanie, qui, venant derrière mademoiselle de Valserre et Anna, d'un pas plus lent, avait assisté à l'enlèvement. Quelques personnes qui passaient sur l'autre trottoir arrivèrent. Au bout de quelques minutes, il y avait autour de la femme de chambre inanimée un petit cercle qui écoutait le récit fait par Mélanie d'une voix entrecoupée. Quelqu'un dit « Je vais prévenir la police ». Une autre opina « Il vaudrait peut-être mieux porter au poste cette pauvre femme qui est là sous l'eau ». Cet avis prévalut. Et deux hommes soulevèrent Anna, toujours inerte, puis l'emportèrent sous l'averse torrentielle. En arrivant au poste, elle bougea un peu, puis, au bout d'un instant, ouvrit des yeux hagards. Le commissaire de police, ayant entendu le récit de Mélanie, déclara « Le plus pressé est de soigner cette femme. Quant à retrouver l'automobile et les ravisseurs, et il eut un geste qui signifiait « Il n'y faut guère compter ». Au bout de quelques instants, Anna retrouva la parole et put donner l'adresse de ses maîtres. Le commissaire essaya d'avoir quelques renseignements susceptibles de le mettre sur une piste. Mais la femme de chambre semblait sous l'empire d'une profonde terreur, claquait des dents et paraissait à peu près abrutie. On la mit donc dans une voiture demandée par téléphone et où monta aussi un agent. Ainsi elle fut reconduite jusque chez les Mulbars, où régnait déjà l'inquiétude, car jamais Florita n'était rentrée aussi tard. À la vue d'Anna soutenue par l'agent, Pépita jeta un cri d'effroi, et cet effroi se changea en une véritable épouvante quand elle apprit ce qui s'était passé. « Enlevée ! Ma petite Florita ! Quelle horreur !» Otto, qui revenait de son cercle et semblait lui-même fort impressionné, essaya de la rassurer. « On va faire des recherches immédiates. Nous la retrouverons, sois sans crainte, mon ami. » « Des recherches ? Où ? Comment ? Quels indices avons-nous? Une automobile, deux hommes, voilà tout ce qu'on sait. Mais un passant peut avoir remarqué une particularité quelconque. On fera une enquête. Une enquête? Et d'ici là, que deviendra-t-elle, la malheureuse enfant? » L'agent hocha la tête. Il pensait, sans le dire, que cette jeune dame avait raison et que la disparition de cette jeune personne rentrerait vraisemblablement dans la catégorie de ces troubles mystères des grandes capitales, qui jamais ne sont éclaircis.